part pour parler d'une brochure qui est sortie il y a 2 mois, qui s'appelle « Lutte des classes et aménagement du territoire, introduction à la géographie marxiste ». Donc cette brochure, c'est une sélection d'articles et d'extraits de livres de 3 personnes, David Harvey, Anne-Claire Val et Jean-Pierre Garnet, qui ont tous les 3 des formations universitaires en sciences sociales et plus particulièrement du coup en géographie, et qui s'essayent à une géographie, enfin qui proposent une géographie marxiste et même on pourrait dire une géographie critique. Du coup, pour commencer, je vais simplement lire l'introduction de la brochure. Cette brochure est l'occasion de partager les outils fournis par un courant de la géographie critique qui se fait de nouveau entendre. Nous avons effectué des coupes. Les articles sont disponibles dans leur intégralité sur Internet. Ces travaux nous invitent à reconsidérer les rapports de classe. Illusion de la disparition des classes ouvrières dans les pays dominants. Essor d'une classe ouvrière industrielle dans les pays dominés et émergents. Apparition d'une nouvelle classe intermédiaire, la petite bourgeoisie intellectuelle, dissimulation des conflits de classe grâce à une approche raciste. Cette recomposition des rapports de classe n'est pas nouvelle. Elle est ici mise à jour de façon explicite. Un certain vocabulaire présent dans les textes tels que répartition des richesses, égalité, autogestion, etc. mériterait d'être clairement défini. Ce langage révèle des positions citoyennistes et réformistes qui ne nous satisfont pas. Répartition des richesses, quelle richesse? Par qui? Pour qui? Autogestion, de quoi? De notre misère? Du monde fantastique dans lequel nous vivons? La notion de droit nous pose également problème. Nous ne pouvons la faire nôtre. Elle sous-entend une autorité garante de ce droit, ce qui est en contradiction avec la volonté d'abolir les dominations. Plutôt que « droit à la ville », nous disons « prendre la ville ». La question des moyens de s'approprier la ville est à peine évoqué. Jean-Pierre Garnier pose la question inéluctable de la violence. Violence par laquelle le capitalisme étend et protège sa domination? Violence par laquelle nous prendrons la ville? Si nous voulons détruire le capitalisme et toutes les dominations, il nous faut détruire les moyens de sa reproduction. Il est impossible de s'approprier la ville telle qu'elle est, conçue pour reproduire le capital et les dominations. Pour enrayer les comportements induits par l'espace capitaliste, la destruction est nécessaire. Ce qui nous a paru pertinent, c'est de montrer que l'aménagement du territoire et l'urbanisation sont des éléments moteurs du capitalisme. Cet aménagement du territoire n'est pas une conséquence du capitalisme, mais bien une condition de sa reproduction. Le capitalisme est en soi une logique spatiale. Et ce n'est pas un hasard si de nombreuses luttes concernent les territoires et leur aménagement. Au Val de Susa et à Notre-Dame-des-Landes, par exemple. Se battre contre cet aménagement que nous subissons au quotidien, c'est donc se battre directement contre le capitalisme et sa reproduction. Ainsi, des enjeux dont les luttes pourraient paraître locaux portent une critique en acte bien plus vaste. Et les cibles ne manquent pas. Partout, les villes sont en chantier. Entre les métropoles, les territoires sont éventrés par la circulation des flux. De par son hégémonie et son omniprésence, le capitalisme nous offre une infinité d'angles d'attaque. Tant que ces analyses restent dans le champ universitaire ou théorique, elles ne transforment pas le réel dans une optique révolutionnaire, voire même, elles servent à la reproduction du système. Emparons-nous de ces analyses pour prendre la ville. Du coup, c'est l'introduction de la brochure « Lutte des classes et aménagement du territoire ». Et les textes qui sont réunis dans cette brochure, ils sont intéressants parce qu'ils permettent de mettre à jour la stratégie de développement spatial du capitalisme. L'aménagement du territoire, c'est un des outils des capitalistes pour se maintenir et continuer à exister. Et du coup, bah, c'est vrai qu'en organisant l'espace à son gré, on peut faire un nombre de trucs incroyables. On peut relancer l'économie, puisque quand le bâtiment va, tout va. On peut augmenter la concurrence entre les zones. On peut dissimuler des conflits de classes derrière une appartenance à un territoire. On peut éloigner les classes populaires de zones stratégiques. Bien sûr, les exploitations et les dominations ne perdurent pas uniquement grâce à une organisation spatiale. Mais l'aménagement du territoire est une des conditions nécessaires à la perpétuation du capitalisme. Du coup, ces textes permettent une appréhension de la logique générale de l'aménagement du territoire. Et quand je dis générale, c'est que du coup, elle permet une appréhension partout dans le monde. Après, dans la brochure, on a aussi des informations sur des processus d'aménagement du territoire plus ciblés, des attaques qui passent par l'aménagement du territoire plus ciblé, entre autres la gentrification, avec un petit historique de la gentrification, qu'est-ce que ça peut induire dans un quartier de manière à la fois concrète et à la fois qu'est-ce que les gentrifieurs, c'est-à-dire les petits bourgeois intellectuels qui s'intéressent dans d'anciens quartiers populaires, portent et véhiculent comme symbole et comment ils sont des auxiliaires de la domination et des complices des classes dominantes, même si parfois ils appartiennent à la classe moyenne. Voilà. Dans cette brochure aussi, un espèce de regard critique sur les sciences sociales et l'usage qu'il en est fait, c'est-à-dire que ces trois géographes se posent tous en termes critiques, c'est-à-dire ils arrivent à reconnaître le point d'origine et leur subjectivité dans leur analyse. Du coup, on n'a pas affaire aux sciences sociales qui ont la prétention d'être neutres. Là, il y a la reconnaissance d'une subjectivité et c'est assez intéressant. Je pense que cette brochure, elle a un petit peu les défauts de ses qualités, c'est-à-dire qu'il y a des fois des choses qui reviennent puisque les trois auteurs en fait, se commentent les uns les autres. Donc, il y a des redites, mais à la fois les redites, elles permettent de prendre de la distance par rapport aux notions de l'un, de l'autre, et du coup, ça permet, je pense, de s'approprier certains mots. Voilà. Et ensuite, du coup, cette brochure, elle peut être pertinente parce qu'elle permet de tisser des liens entre différentes luttes donc actuelles autour de l'aménagement du territoire. Donc voilà, Val de Souza, Notre-Dame-des-Landes, la construction d'une ligne TGV à Avignon ou que sais-je ailleurs. Et à la fois, elle permet de tisser des liens entre des luttes donc, qui ont des enjeux géographiques et la grande lutte, on va dire, contre les exploitations et les dominations. Parce que parfois, la destruction de 4 exploitations agricoles et de 6 espèces de piaf à Notre-Dame-des-Landes, l'embourgeoisement d'un quartier populaire à Marseille, ou la construction d'une voie ferrée ou d'une autoroute, tous ces événements hyper localisés, ils peuvent presque nous apparaître comme des faits divers, tant nous sommes habitués à perdre du terrain. Et du coup, les luttes qui s'y opposent, elles semblent des fois, dans ce qu'on entend, peu ambitieuses. Et on dit, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus urgent d'empêcher une construction, une destruction, une déportation. Alors peut-être qu'effectivement, ce n'est pas prioritaire, à la vue de tout ce qu'on peut se prendre dans la gueule quotidiennement. Oui, mais on ne connaît pas le potentiel révolutionnaire et fédérateur d'une contestation, d'une révolte. Et parfois, un point minuscule prend l'ampleur qu'il mérite. On se croit parfois engagé dans une bataille et on voit que c'est juste un bout de la guerre. Tous les territoires sont aménagés, nous avons donc de nombreux champs de bataille.
Voilà pour donc cette brochure. C'était bon, c'était prévu, ouais. Non, c'était juste, je pensais essayer de combler un trou parce que je pensais qu'il y avait un petit souci technique. Et non, voilà, donc critique des architectes et des urbanistes comme agents zélés du capital. Et donc on peut rappeler le titre, lutte.
Des classes et aménagement du territoire, introduction à la géographie marxiste. Et on peut le trouver sur http://basseintensité.internetdown.org basseintensité.internetdown.org.
Voilà.
Stop, clearly, know your enemy.
Radio Gadair 88.4. On vient d'écouter l'excellent, le remuant Rage Against the Machine. Et donc pour introduire notre émission ce soir sur les évasions, on va commencer direct dans le vif du sujet avec les chroniques littéraires qui donc ce soir vont venir essayer d'épouser au mieux le thème de la soirée. On va commencer sans plus attendre avec Emmanuel, un classique de la littérature française. Ils se serrent l'un contre l'autre, comme s'ils ne disposaient d'autre espace que celui d'une tranchée étroite, creusée pour s'évader d'un cachot fatal. Et qu'en rampant, elle a aussi laissé derrière elle son pantalon rayé de prisonnière qui l'aurait trahi. Le costume qu'elle revêtira hors de l'enceinte, elle l'emporte dans un baluchon, avec les cartes et le cyanure. Le corps du mâle est contre son flanc. Elle n'en peut plus d'avancer sur les genoux et les coudes, et elle se repose sur lui. Elle goûte le réconfort du ventre robuste, et les lèvres qui touchent ses lèvres sont fraîches et lui font du bien. Qu'importe, puisque sûrement les sentinelles tireront. Elle est vierge, mais le sexe viril qui ouvre ses cuisses est désespérément fort. Le baiser qui la mord étouffe ses cris. La terre meuble épanche son sang. Ce n'est pas le moment pour l'homme d'être tendre, ni attentionné, ni prudent. Elle l'approuve de se ruer en elle comme une bête, livre 2, L'Antivierge, d'Emmanuel Arsan, qui est donc, comme je l'ai dit, un classique de la littérature érotique et qui a inspiré le film éponyme. Énorme succès à l'époque du cinéma français, avec près de 10 millions de téléspectateurs, ce qui démontre peut-être de la lubricité du peuple français. Donc voilà, ça c'était Emmanuel, L'Antivierge. Et j'enchaîne sans plus attendre avec le deuxième bouquin, qui est donc Les derniers exilés de Pinochet, de Xavier Montagna. Pénètre par vagues dans le tunnel. Ça y est, des mains impatientes arrachent les mottes de terre. La nouvelle court vers le fond de la galerie avec cet oxygène qui les ranime.
Pour enfermer, que ce soit en Belgique, en Italie, en Angleterre, en Grèce, partout. Du coup, je vais vous faire un rapide. En Belgique, le 21 avril, il y a eu une manifestation agitée devant le centre de rétention à Turin, qui a été publiée sur sanspapiersnifrontieres.noblog.org, et je conseille d'aller le lire. Et je dis tout ça pour annoncer Transfo, 57 avenue de la République, Bagnolet 93, Métro 9 Robespierre ou métro 3 Gallieni. Je vous lis le texte d'appel. Les frontières sont omniprésentes. Chaque contrôle peut aboutir à l'enfermement et à l'expulsion. Parallèlement, aux quatre coins du monde, les frontières qui séparent les pays se technologisent et se militarisent. Face à cela, des individus, avec ou sans papier, résistent et se révoltent. La question des luttes contre les frontières se pose partout, de la Grèce où des personnes s'organisent avec des migrants contre les fascistes et les flics, à l'Italie où les nombreuses aragazes vers les métropoles européennes. De plus, des sabotages petits ou grands viennent enrayer la machine à expulser. De la destruction des centres de rétention aux révoltes individuelles ou collectives, socialistes et politiciens qui se renforcent grâce aux frontières jusqu'aux divers actes quotidiens de résistance au contrôle et à l'enfermement. En région parisienne, le 16 novembre 2012, une manifestation a eu lieu devant le centre de Vincennes, suite à laquelle une assemblée de coordination contre les centres de rétention et la machine à expulser s'est créée et s'est tenue pendant quelques mois. Dans le même temps, des parts de feu, mobilier cassé, évasions se sont succédées à Vincennes et à Palaiseau. Si cette assemblée n'existe plus aujourd'hui, plusieurs de ses participants continuent à lutter contre la machine à expulser et ont voulu proposer ce cours qui ne laisse pas de place aux partis et aux syndicats, qui tentent de s'attaquer sans médiation à la machine à expulser. Un parcours avec sa propre temporalité et ses propres perspectives, qui suivent une continuité. Un parcours qui permette d'avoir les outils pour faire face au moment d'intensification des luttes, telle une révolte dans un centre ou l'arrivée en nombre de migrants. L'importance de construire un rapport de solidarité avec les mais permettant d'apporter une solidarité concrète aux révoltes et de fournir des bases solides pour nos luttes. Ce sera l'occasion de confronter nos approches des luttes, prendre le recul nécessaire, ainsi parce que s'affronter aux frontières permet de construire des luttes dépassant la question spécifique des migrants et des centres de rétention, en articulant cette question avec celle des prisons, du travail, de la ville. Pour s'en prendre à quelques-unes des racines de ce monde basé sur le pouvoir et la marchandise et en finir avec. Parce que tant qu'il y aura des frontières, des centres de rétention, des prisons, perdureront les États, le pouvoir et l'argent. Nous invitons à ces rencontres toutes celles et ceux qui désirent lutter contre les frontières et la machine à expulser. Voilà pour ce qui est des rencontres sans frontières à Bagnolet ce week-end.
Vous êtes bien sur NDChaîne 88.4 et donc on va continuer cette émission en parlant du procès qui s'est déroulé au mois dernier, du procès de de l'évasion de Moulin-Iseur. Mais avant, on voulait un peu revenir sur l'institution judiciaire, à quoi sert-elle et surtout les intérêts de qui sert-elle. Et on voulait aussi passer un petit montage qui a été fait par De Bruit et De Fureur, qui est une émission qui a lieu sur Radio Usine, c'est à Genève. Et dans ce montage, et on va voir un peu la manière dont fonctionne une cour d'assises et plus précisément comment ça se passe l'intime conviction du juge pour mettre à jour la vérité judiciaire. C'est parti pour le montage de De Bruit et De Fureur que vous pouvez retrouver sur internet.
¿Cómo podría yo tomar personalmente la dirección de un movimiento de emancipación?
Товарищи, рабочие крестьянской революции, о необходимости которой в то время говорили большевики, совершилось! Ура!
L'histoire ne m'a donné raison, mais pas les hommes. Ça, c'est une très grosse différence entre l'opinion des gens et puis les faits. Et alors, dénoncer avec violence, il suffit de dire simplement que vous allez tomber dans un précipice. C'est violent. Si vous dites, monsieur, avancez, je vous en prie, vous êtes sur une jolie pelouse et vous marchez gentiment devant vous, ne vous inquiétez pas du reste.
La chronique de Monsieur Sinalco.
Bonsoir, Mr. Sinalco.
Bonsoir.
Dites-moi, Mr. Sinalco, dans le documentaire sur Véronique Courgeot, dont nous avons entendu des extraits, la cour d'assises apparaît, il me semble, comme le lieu de multiples révélations, et le rôle de son président semble être de faire surgir la vérité.
Vous avez entièrement raison. Souvent, dans la fiction, les tribunaux apparaissent comme des sortes de théâtres, où les dialogues visent à confondre un coupable et à révéler la vérité. Mais ce n'est pas seulement une représentation fictive.
Aha.
Les juristes accordent, en théorie du moins, une grande importance à l'établissement des faits et à la manifestation de la vérité. La construction de la vérité judiciaire, c'est d'ailleurs la fonction du juge dans sa procédure dite inquisitoire.
La procédure inquisitoire, mais qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, la procédure inquisitoire, dans la théorie du droit, est distinguée de la procédure accusatoire. Dans la première, l'État joue un rôle central. Le juge, qui agit au nom de l'État, mène une enquête. Dans son verdict, qui comprend une partie appelée en fait et une partie appelée en droit, il doit littéralement raconter l'affaire qu'il a à juger. C'est la partie en fait.
Je comprends.
Sur la base de ce récit, il prend des décisions juridiques. C'est la partie en droit. Cette procédure est celle qui est utilisée partout en Europe, sauf en Angleterre. A l'inverse, la procédure accusatoire vise moins la manifestation de la vérité qu'à favoriser un arrangement entre les parties. Ce type de procédure est utilisé dans les pays anglo-saxons.
Mais dites-moi, Mr. Sinalco, je crois que l'aveu est une notion centrale pour comprendre la différence entre ces deux procédures, non ?
En quelque sorte, oui. Dans la procédure accusatoire anglo-saxonne, le prévenu peut choisir de plaider coupable. Cela ne signifie pas substantiellement qu'il se reconnaît comme l'auteur des faits, non ? Mais qu'il renonce à faire valoir son innocence. Qu'il renonce, en somme, à l'établissement de la vérité. Dans la procédure inquisitoire, le prévenu peut toujours avouer. Ce n'est qu'une preuve, voire un élément de preuve. C'est à l'accusation de fournir un dossier complet sur la base duquel le juge établira la vérité judiciaire, ce qui s'est passé selon lui, et qu'ainsi il prononcera une condamnation ou pas.
Je comprends, mais alors le rôle du juge d'instruction est sans doute très important dans la procédure inquisitoire, puisque c'est lui qui rassemble et ordonne les faits.
En théorie, c'est effectivement le cas. Les juges d'instruction sont supposés instruire à charge et à décharge, c'est-à-dire autant pour essayer d'inculper que pour essayer de disculper le prévenu. mais il s'agit là d'une vaste fiction.
Vous voulez dire que les juges d'instruction orientent leurs enquêtes pour charger l'accusé ?
Tout à fait. Mais surtout, ils agissent pour le compte de l'État, c'est ça qui est important. Or, la théorie pénale des Lumières, qui est largement à l'origine des codifications actuelles, repose sur l'idée d'une neutralité de l'État dans le procès pénal. Le seul intérêt de l'État serait de protéger la société et d'éduquer les individus déviants. En réalité, la procédure pénale répond à d'autres enjeux que ceux-ci.
Eh bien, pourriez-vous peut-être nous dire lesquels ?
Oui, le juge, je l'ai dit, doit construire une vérité judiciaire basée sur l'établissement des faits. Il ne peut le faire qu'avec les catégories de perception qui sont les siennes. Quel crédit apporte-t-il à une analyse ADN ou à une expertise psychiatrique ? Comment comprend-il les déclarations du prévenu ? Comment interprète-t-il un aveu suivi d'une rétractation ou encore le silence du prévenu ? Dans ces conditions, le juge établit les faits et construit cette fameuse vérité judiciaire avec des lunettes très particulières qui correspondent à sa classe sociale, à son éducation, à sa position au sein de la magistrature. Mais depuis ce point de vue particulier, il établit une vérité universelle qui est celle du jugement.
Concrètement, il semble par exemple que l'aveu, qui en théorie, comme vous le disiez, Mr. Sinalco, ne devrait être qu'un élément de preuve, devienne un élément capital de la procédure criminelle.
Absolument, vous avez tout à fait raison de le souligner. L'obtention d'aveux circonstanciés est un élément capital, comme on a pu le voir dans le cas de Patrick Dils, par exemple. En réalité, le jeune homme avait eu, au cours de ses interrogatoires, l'occasion de réunir tous les faits qui lui ont permis de présenter des aveux très détaillés pour un crime qu'il n'avait pas commis. Pour avoir une véritable instruction à charge et à décharge, le juge d'instruction aurait dû mettre en question les techniques d'interrogatoire, ce qui est structurellement complètement impossible, vu la proximité entre le juge d'instruction et la police. Dans ce cas spectaculaire, ce qu'on appelle les garanties procédurales, c'est-à-dire les éléments de procédure qui doivent contrebalancer le libre arbitre des juges, n'ont servi strictement à rien.
Merci, Mr. Sinalco.
Mais je vous en prie.
Voilà, c'était De bruit et de fureur sur l'institution judiciaire. Et donc, on a pu entendre qu'un procès, c'est un théâtre censé dévoiler la vérité. Un théâtre, donc, avec un décor, et puis des costumes, un public, et des acteurs qui représentent tous quelque chose. Alors, il y a l'inculpé, la partie civile, le procureur qui représente les intérêts de l'État, et le juge censé incarner l'impartialité, la neutralité ou l'objectivité. C'est son intime conviction qui va déterminer le jugement. Et cette intime conviction est basée sur un faisceau d'indices, les preuves, mais aussi le profil psychologique et social de la personne inculpée. Son parcours, son passé, sa personnalité, ses intentions, etc.
Et cette mise en scène, elle sert aussi à montrer que la justice, elle, a la vérité, mais ça sert aussi à faire peur au public, à tous ceux qui seraient susceptibles d'enfreindre les lois. Il n'y a que ceux qui sont déguisés qui manient les règles du jeu, et les autres les subissent sans pouvoir agir, car ils font face à des spécialistes.
Des spécialistes qui ont d'ailleurs les connaissances, et donc la vérité, et qui appliquent une punition en fonction de ces connaissances. Voilà, alors le calcul de la sanction, c'est de la pure arithmétique, c'est-à-dire, comme critère de valeur, mesurer les actes en fonction de leurs conséquences sur la société. La société en question qui repose bien sûr sur la propriété des biens protégés par l'État. Donc ça quantifie les plaisirs et les peines comme l'économie quantifie les bénéfices et les pertes. Ce qui implique de gérer le marché du crime comme n'importe quel autre marché, subordonné à des lois universelles. Il faut donc réprimer les plus dangereux par les peines les plus sévères. Et réserver des châtiments plus doux aux moins importants. La société civile, elle est considérée comme le siège de phénomènes d'insécurité, à contrôler et à réprimer lorsque nécessaire, mais qu'il est impossible de supprimer en totalité.
En réalité, l'objectivité judiciaire, ça n'existe pas, puisque les lois et l'institution judiciaire, ça permet de maintenir un certain ordre social et de punir ceux qui pourraient le remettre en question, c'est-à-dire les pauvres. Alors l'institution judiciaire, comme on la connaît aujourd'hui, en gros, c'est un héritage de la Révolution française, c'est-à-dire l'avènement de la propriété bourgeoise. C'est un système de production qui peu à peu change, accompagné d'un système de pensée, la philosophie des Lumières, qui va mettre en place l'idéologie de l'État moderne, qui serait arbitre et garant de rapports sociaux apaisés. Sans la loi et l'institution judiciaire, eh ben, on passerait notre temps à nous dévorer les uns des autres, puisque l'homme est un loup pour l'homme. Il faut donc que la loi et que la justice se mêlent de tout. L'État réaffirme son rôle de protecteur de l'intérêt commun, et l'intérêt commun, ça veut dire l'intérêt des possédants.
D'ailleurs, pour revenir un peu en arrière, les premiers textes de loi apparaissent à l'époque de François Ier, avec le Code du commerce et le Code noir qui instaurait l'esclavage dans les colonies. Donc il n'y a pas besoin d'en dire plus pour voir à qui profite le Code. La loi a toujours servi les intérêts de quelques-uns, et d'ailleurs les dernières évolutions du système pénal et répressif, qui tend à enfermer de plus en plus, correspondent aux évolutions de l'appareil de production. Les transformations de la production depuis 50 ans, c'est donc l'industrialisation agricole, la concentration et la délocalisation des usines, et le développement à outrance des services, et ça laisse sur le carreau une masse de précaires et d'inoccupés qui va s'agir d'encadrer fermement, des dépossédés qu'il faut contrôler afin de s'assurer qu'aucune résistance ne naisse parmi eux. Donc la prison, elle joue là son rôle à plein, c'est-à-dire mettre temporairement de côté ceux qui ne sont plus rentables et enfermer pour longtemps ceux qui refuseraient de se soumettre.
Et donc pour avoir une force de travail disponible, il faut un système de contraintes et de punitions, un système pénal et un système pénitentiaire. Voilà, c'était une sorte d'introduction pour parler du procès de l'évasion de Moulin-Isère. Et qui c'est que je sais pas qui c'est qui compte en parler de ce.
Peut-être une petite musique avant ça.
Ouais, voilà, on va essayer de trouver quelqu'un pour en parler. Mais avant, on va commencer par écouter un peu de musique, et c'est pas complètement par hasard, parce qu'il se trouve que c'était une partie de la plaidoirie. Ça sera à vous de deviner de quel couplet il a parlé.
Je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer de pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans la tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai la porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes un bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que j'emporte des armes et que je sais tirer. Et que je sais tirer.
Et que je sais tirer. Voilà, dites à monsieur le président, dites à vos gendarmes que j'aurai des armes et que je sais tirer. Voilà, c'est comme ça un peu que Christophe Kider a fini sa plaidoirie. Elle veut dire beaucoup. Alors on va essayer de vous parler de ce procès. On a déjà essayé d'en parler un peu avant. On pourrait commencer par une des plus belles phrases que j'ai entendues lors de ce procès-là. Elle était de la bouche de monsieur Christophe Kider, qui disait à ce juge, parmi tant d'autres, avec ses hermines sur les épaules, qui te regarde comme si tu valais peau de lapin, eh bien, la prison, vous la distribuez en années, en mois. Nous la vivons en heures, en minutes. Et quand on se compte les secondes, c'est que la mort n'est pas loin. Quoi dire de plus? Après ça, on aurait presque fait déjà tout le procès, mais on va quand même vous en parler. Donc voilà, juste de dire que ça s'est passé donc à la cour d'assises de Lyon, déjà, et que bon, les cours d'assises, on n'a pas souvent l'occasion d'y foutre les pieds, et que ça commence par une espèce d'énorme bâtiment assez grandiose, avec 24 colonnes pour t'accueillir, ça, tout du moins quand tu arrives de l'extérieur. Et une fois à l'intérieur, c'est effectivement parquet feutré, avec une ambiance quand même assez lourde, on va dire, de ces lieux où chaque jour de l'année sont distribuées des peines pénibles. Donc voilà, c'est dorure et boiserie, c'est bleu, c'est or, il y a des cagoulés, des famas, dans tous les cas, ça c'était pour Christophe Kider et Top Eladge. Il y avait des bas-reliefs et de hauts plafonds, on imagine, dans tous les cas. Comme je le disais, Ripper, lui, c'est pas dégonflé, c'était l'avocat donc de Christophe Kider, qui nous a fait une plaidoirie de 4 heures, donc ça c'était l'avant-dernier jour. On vous passera les commentaires, je crois, sur les premiers jours, où Maton, Bleu et divers flics ou baveux inintéressants a pu s'étaler sur la nécessité de la peine, de la punition et de l'exemplarité, pour ne parler du coup que des plaidoiries des deux victimes, donc les évadés, on va dire, avec donc une plaidoirie de 4 heures de Ripper.
C'est ça.
Là, j'étais juste lâché dedans. Voilà.
Pas mal. Ouais, alors, Christophe Kider, en fait, il avait deux avocats. C'était Bernard Ripper et Delphine Boiselle. Mais on va surtout retenir celle de Bernard Ripper. Donc, en fait, ils avaient 19 accusations contre Christophe Ripper.
Et Kider, lui, il est encore avocat, Ripper. Il est encore avocat. Kider. C'est vrai qu'il a des plaintes sur le cul. Et d'ailleurs, parce que voilà, un des avocats de rupture, capable de faire des vraies plaidoiries.
Voilà. Et en fait, pendant sa plaidoirie de 4 heures, il a quand même essayé de porter pas mal au ridicule toutes les formulations juridiques de chaque fait qui leur était reproché. Donc en fait, parce que par la cour, tous les faits et les actes ont été réduits en termes juridiques qui du coup sont incriminés dans le code pénal et qui servent à poursuivre les accusés. Donc en fait, parmi les 19 accusations qui étaient portées contre lui, il y avait celle d'avoir agi en organisation de malfaiteurs.
Association de malfaiteurs.
Où du coup, il a posé le fait que là, c'est deux personnes, donc en l'occurrence deux potes, deux amis, qui se sont évadés et que du coup, ça passe en acte en réunion.
Chose énormément importante parce qu'effectivement, du coup, il considérait que la complicité était entre les deux évadés et qui donc, de même fait, que les complicités qui s'en suivaient et donc l'association de malfaiteurs qui concernait les femmes, du coup, tombaient en même temps.
C'est ça. Alors, ils ont été aussi accusés de dégradation. Donc, et en fait, en termes juridiques, dégradation, ça veut dire vouloir détruire, avoir la volonté de le faire. Et en gros, ils ont demandé qu'on leur ouvre la porte, on ne leur a pas ouvert, donc ils ont détruit la porte, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de volonté.
Une volonté d'ouvrir.
Mais pas de détruire.
Ça a été ouvert, mais pas détruit.
C'est ça. Alors ils ont été aussi accusés d'enlèvement, de séquestration de mineurs. Donc pendant la prise d'otage, ils ont pris un homme avec son petit-fils pour tout simplement partir en voiture. Et en fait, au lieu de laisser l'enfant sur l'autoroute et du coup de l'abandonner et de le mettre certainement plus en danger, ils l'ont emmené aussi avec eux, ce qui fait qu'ils sont pour le coup accusés d'enlèvement de mineurs. Et en gros, s'il l'avait laissé sur le bord de l'autoroute, il n'y aurait pas eu de qualification pénale, parce que juridiquement, ils n'étaient pas responsables de cet enfant. Et donc, ils ne pouvaient pas l'abandonner. Et donc ça n'aurait pas pu leur être reproché. Donc, en termes... Enfin, pour la justice, ça aurait été peut-être moins pire qu'ils laissent le gamin sur la route au lieu de l'enlever. Je ne sais pas si je suis très claire.
Alors là, ce qui est très clair, c'est que... Dans... Et donc, là, ce qui est de clair, effectivement, c'est du fait d'enlever cette charge-là encore une fois, d'enlèvement sur enfant, c'était aussi important pour le tarif normalement final. Encore une fois, c'est pour dire que Ripper a fait quand même un gros travail pour essayer de convaincre donc les jurés que toutes ces accusations étaient, on pouvait les faire tomber plus ou moins une par une. On continue.
On continue pour les accusations, tu veux dire ? Oui, l'atteinte, par rapport aux parties civiles, donc il y a 11 matons qui se sont portés partie civile, alors que en réalité il y a eu 2 matons qui ont été pris en otage. Ce qu'ils disent, c'est que l'explosion leur a apporté préjudice, qu'il y a eu des ITT, etc. Hein. Donc ce que Ripper a mis en avant, c'est qu'ils ont été traumatisés plus par l'administration pénitentiaire après, parce qu'ils se sont fait un peu taper sur les doigts, plus par l'explosion elle-même, et que donc l'atteinte, enfin le traumatisme qu'il aurait reproché sur 11 matons et plus, du coup est remis en question. Et ensuite, sur la tentative d'homicide.
Oh là, il y a tellement loin à dire, parce qu'effectivement, pour le coup, dans cette évasion, il y a plusieurs étapes, parce qu'effectivement, on ne l'a pas précisé, ils ont réussi à sortir quand même, ils ont passé que 30 heures à l'extérieur. Et donc il y a eu plusieurs moments, donc effectivement pendant les prises d'otages qui étaient pour eux simplement le moyen d'avoir une voiture pour partir, il y a aussi le moment où ils se sont fait arrêter. Donc il y a dans tous les cas, on disait un maton qui lui pour le coup à coup de violon et pas de prison a réussi à prendre un peu de galon, c'est en ayant tiré 2 coups de feu en direction de tout et n'importe qui t'a blessé tout et n'importe quoi, mais dans tous les cas avoir fait quelque chose par rapport à d'autres matons qui eux n'ont pour le coup rien fait d'autre que de se protéger et surtout... Et on dira de ne pas mettre en danger d'autres matons qu'eux-mêmes. Donc voilà, savoir que quand un individu est armé et en possession d'explosifs à l'intérieur d'une prison, a priori quand on est maton, et ben, si on n'est pas trop con, on ferme sa gueule. Donc voilà, dans tous les cas, après coup, ils se sont fait un peu taper sur les doigts. Et il y en a un qui a fait le brave, le plus crétin de la bande d'ailleurs, ce qui a été d'ailleurs pour le coup un régal de l'entendre, puisqu'ils ont été obligés de laisser parler le plus idiot de la bande, et qui a tiré 2 coups de feu un peu en hasard en passant la main derrière une porte, et qui a eu comme réponse 2 autres coups de feu tirés pour le coup par Killer, qu'il reconnaît tout à fait, mais un peu dans le même style, un peu je tire, on sait pas trop par où, mais il n'y a rien, de toute façon de l'autre côté, ni l'un ni l'autre était réellement capable en fait de blesser l'autre. Sauf que quand il y en a un qui tire vers l'un, donc là c'est le maton, et bien... c'est de la légitime défense, et quand l'autre tire sur l'autre, eh bien, c'est de la tentative de meurtre. Donc voilà, encore une fois, cette tentative-là de meurtre a été retirée, parce qu'effectivement, déjà, en fait, au vu de la circonstance, les balles tirées par Kider ne pouvaient pas physiquement atteindre ce maton, et qu'en plus de ça, le maton s'était bien bien empressé de disparaître après avoir tiré les coups de feu, et ça s'était vu à la reconstitution. Donc ça faisait une tentative de meurtre de moins, et ce n'est pas rien pour un avocat que de faire tomber ça, et faire diminuer donc la peine. Mais il y avait une deuxième tentative de meurtre, encore plus curieuse. Celle-là, en fait, c'est à la fin, ça se passe dans un tunnel sordide où un crétin de camionneur, on dit les routiers sont sympas, que dire, un crétin de camionneur n'a pas pu s'empêcher, voilà, de faire le guignol et donc de bloquer cette voiture qui tentait tant bien que mal d'échapper à la police, où à l'intérieur il y avait... Top Eladj et Christophe Kider, donc en fuite depuis 2 jours à ce moment-là. On peut avoir une pensée émue donc pour le coup à Faïd Redouane qui court depuis maintenant 17 jours. Et voilà, où à ce moment-là, il y a donc les armes qui sont braquées, celles de la police sur cette voiture. Quelques coups de feu sont tirés, bien sûr, de la police. Encore une fois, ça, c'est la légitime défense. Mais comme il se trouve que donc Top Eladj lui sort, donc se fait ramasser, emballer, menotter, et tabasser, on l'imagine, et en fait Christophe Kider reste un moment à l'intérieur de la voiture, et là il y a à nouveau un coup de feu qui est tiré par la police, et cette fois-ci elle touche donc Christophe Kider en plein poumon, qui finit par sortir de la voiture, une arme à la main, et il est à nouveau accusé de tentative de meurtre, cette fois-ci sur le policier. Et oui, puisque effectivement le policier lui était en état de légitime défense. Donc voilà, cette fois-ci il s'était fait trouer la peau, il n'avait pas demandé ça. Dans tous les cas, le flic a jamais été accusé d'avoir voulu tuer donc une tentative, dans tous les cas, de meurtre sur la personne de Kider. Quant à Kider, qui lui n'a pas tiré de coup de feu de cette voiture et avec ce pistolet, dans tous les cas, était à nouveau accusé d'une deuxième tentative de meurtre, cette fois-ci sur un policier, que Maître Ripper a fait sauter en éclats, parce qu'effectivement, il n'y a aucun moment où il a été, tout soit peu, menaçant vis-à-vis de ce policier.
Bah, du coup, ce qui est retenu contre eux à la fin, c'est séquestration sur quatre personnes, donc les deux matons et le grand-père et son petit-fils. Et l'évasion, qui du coup est un délit en France depuis 2004, alors qu'il ne l'est pas dans encore pas mal de pays, même en Europe. Et donc il avait été, on leur avait demandé 20 ans.
Alors 22 ans. Enfin, juste dire qu'effectivement, pour ajouter que sur la plaidoirie donc de Ripper, il s'est quand même beaucoup étalé sur le fait que la police tire à tout bout de champ, qu'elle soit bourrée ou pas à Marseille ou ailleurs, sur des jeunes ou moins jeunes, avec des morts suspectes, en veux-tu, en voilà. Et à chaque fois, effectivement, c'est toujours une légitime défense. Et qu'il a été défendu qu'à un moment, quand tu veux t'évader, quand tu veux t'échapper, que ce soit après un braquo, n'importe quoi, et que tu es un gangster, quand tu tires vers la police, en vérité, ce n'est que pour couvrir ta suite. Ta fuite, donc la suite aussi forcément, mais pas en soi pour tuer inévitablement et systématiquement la police, mais que c'est toujours ce qui est dans tous les cas noté comme inculpation, qui est très très grave. Donc effectivement, ils ont demandé 22 ans pour l'un, 22 ans pour l'autre, c'est-à-dire les deux évadés, ceux qui ont réussi à sortir. Et il demandait pour trois personnes considérées comme complices, c'est-à-dire la femme, tout du moins mère de la fille de Christophe Kider, qui lui donc a aidé à une certaine logistique pour cette évasion, et la femme d'un troisième larron, qui lui donc passait aussi pour complicité, et sa femme, qui elle avait fait entrer à l'intérieur de la prison, donc un pistolet et des explosifs, voilà, la pintrite en fait... La patrie qui permettait de faire sauter donc les portes comme Farid Redouane a fait à Sekeda. Voilà, je suis un peu dans mes pensées. Donc quoi dire de plus qu'effectivement avec les femmes ont pris 5 ans, qu'ils ont tenté de s'évader, c'était en 2009. Donc qu'avec ce jugement-là, en fait les femmes devenaient libérables. Pour ce qui est du troisième larron qui était aussi donc complice et qui a aussi pris 5 ans, lui, il lui reste encore de longues années à croupir en prison pour d'autres délits. Donc, avec un Christophe Kider qui était libérable en 2037, il n'a pas pris 22 ans, non, une clémence, quelque
juste
part.
Juste 15 ans.
Ils ont pris juste 15 ans. Ils ont pris 15 ans, et effectivement, ils peuvent faire appel, mais comme les deux femmes sont libérables, effectivement, ça paraît assez évident que faire appel serait un risque de voir ces deux femmes rester en prison. Dire de plus, c'était assez intéressant au procès, en fait, au moment où ils allaient faire le verdict, à part le GIGN qui s'était massivement disséminé dans toute la pièce, ils ont obligé une partie du public, le peuple donc de cette, ce qu'on appelle quand même, c'est quand même la justice du peuple, hein, qui se passe, on va dire, là-bas. Il y a les jurés, le peuple est invité à venir à voir. Il n'est pas question d'ouvrir ta gueule, sinon tu dégages. Donc du coup, le peuple, à la fin, hormis d'avoir déjà chassé Top El Hadj, Omar Top El Hadj, parce qu'il voulait parler de son histoire entièrement, mais pas comme l'entendait le président. C'était d'ailleurs hyper intéressant. Encore une fois, on se rend compte que là, peut-être le peuple, celui qui était là, tout du moins, avait peut-être envie d'entendre cette histoire, mais que le juge en avait décidé autrement. Ça a été assez, émotionnellement, assez terrible de voir cette personne, telle une bête, sortie de sa cage, exhibée comme ça, sur ce parquet brillant, ne pas lui laisser finalement la parole en sachant qu'ils vont aller de nouveau l'enterrer vivant. Il a dit au fur et à mesure qu'il essayait d'expliquer pourquoi il pouvait en arriver là, notamment à des actes aussi violents, pour pouvoir simplement s'évader. Et bien qu'il lui fallait raconter un peu toute sa vie, que sa vie était effectivement pas simple et que dans tous les cas le juge voulait pas l'entendre. Alors il lui a donné une fois 10 minutes et puis après il lui a dit vous avez plus que 5 minutes, il lui a répondu vous allez m'enterrer pour 20 ans. Et vous me donnez 5 minutes. Voilà, c'était là-dessus, peu de minutes après. Et donc, a priori 5, il a été expulsé de la salle. Que dire de plus que après, donc, Kider, il a répondu à un journal de merde qui s'appelle le Journal du Dimanche. Ne pas oublier que Kider avait rappelé que malgré que la presse aime bien les caniveaux, le sang et la mort, et ben il n'était pas là en fait. Ce procès n'intéressait personne. Donc je vais vous lire un petit bout de cette donc du dernier, le plus récent courrier de Christophe Kider, qui était juste après le procès. Donc quand même de dire que Kider avait déjà été condamné avant pour une autre évasion, que comme disait ma camarade, depuis quelques années les condamnations ont changé pour les évasions, à savoir notamment qu'un jour ils ont décidé que c'était plus confusionnable avec les autres peines. Elles s'additionnent donc systématiquement à celles d'avant. Donc voilà, Christophe Kider qui était donc en prison pour déjà depuis 18 années pour un braquage qui avait mal tourné. Il a repris, suite à une évasion, une peine de, je sais plus, c'était 15 ans aussi. Donc, il a amené à 2037. Et là, il vient de reprendre 15 ans, donc il s'additionne à 2052. Voilà, il avait été condamné au début à 30 ans de prison, donc qu'il pouvait espérer une sortie au bout de 20 ans. Ça serait dans 2 ans, normalement, s'il n'y avait pas été rajouté 30 ans. Enfin, voilà. Donc, ça a été l'interview donc, de ce journal de merde. Je vous ai épargné les questions un peu débiles, mais dans tous les cas, il lui demande quelle était sa réaction à cette condamnation. Et il dit, je vais peut-être vous étonner, mais j'étais content. 15 ans, 20 ans, 30 ans, alors que j'ai une cinquantaine d'années à faire, ça n'a aucun sens. J'étais surtout très content pour les deux femmes, dont la mère de ma fille, qui vont sortir d'ici dans 10 jours, après 50 mois de prison. Donc il dit, je suis revenu en cellule le cœur léger, et si je n'avais pas attrapé un petit rhume, ce serait carrément le top. Donc voilà, on lui parle forcément de ce Redouane Faïd, sorti depuis 15 jours, et il lui souhaite bonne route. Et notamment, il en profite pour parler des réactions à l'intérieur des prisons quand il y a une évasion, et il dit, c'est génial, tout le monde revit, même les canailles de chez Canal qui seraient capables de dénoncer et dénoncer quelqu'un en train de préparer une évasion, eh bien c'est l'explosion de joie, ça tape dans les portes, les mecs crient les noms des mecs qui sont partis, voilà, une espèce d'injection d'air pur, je sais pas, c'est comme si quelqu'un était passé au-dessus de la prison et avait jeté des milliards de pétales de roses. C'est magique que pendant quelques minutes, mais cette magie, c'est précieux. Surtout quand ça se passe à Moulins ou à Fresnes, ça montre que si c'est possible dans des endroits hyper sécurisés comme ça, eh bien c'est possible partout. Alors, s'ensuit une question sur les évasions. Devrait-elle encore se passer ? Il dit, quand on purge une peine de 48 ans, est-ce que le mot espoir a encore un sens ? Non, l'espoir, c'est du poison, un des rares poisons que l'on s'injecte seul. Les gens qui vivent avec l'espoir se lestent d'un poids inutile. Pour les gens comme moi, il faut bien comprendre qu'on est comme en pleine mer. Il n'y a pas de fond. Il faut battre des jambes en permanence. L'espoir, j'en ai vu des mecs qui, après 20 ans, ont eu l'espoir. Ils y ont cru, ils ont arrêté de battre des jambes et ils ont coulé à pic. En fait, à ce moment-là, il parlait notamment de tous les aménagements de peine auxquels ils te font croire. Donc, il disait, c'est évident, des évasions, il va y en avoir, ça va exploser et il va même y avoir des drames. Donc voilà, après il lui pose d'autres questions au sujet d'une phrase qu'il a sortie à la fin de sa plaidoirie où il avait dit qu'il briserait le meilleur de lui-même, voilà, et notamment parce qu'il était prêt à faire 20 ans de prison pour ce mort par accident qu'il a eu pendant un braquage, mais pas un jour de plus. Donc il disait, ce qui plaît encore à mes proches, et si je suis toujours aussi entouré, c'est parce que j'ai encore cette faculté en moi de ne pas être devenu haineux, amer, aigri et psychorigide. Mais il va falloir que je rabote un peu d'humanité qui me reste de façon à être performant et ressembler à ce qu'on dit de moi depuis très longtemps. Alors oui, je vais prendre ce que j'ai de meilleur en moi et je vais l'éclater, l'imploser. Et là, je vais être performant. Je le sais depuis longtemps, si j'avais été plus méchant, pas obligatoirement tuer, mais mettre tout de suite une rafale dans les jambes, ouvrir la tête à coups de crosse, montrer à ceux qui sont là qu'il y a un danger létal immédiat, je sais que je serais déjà dehors. Et quand je confronte cette réalité à ce que je suis en train de vivre, je constate qu'il y a une dualité en moi parce que je ne suis pas comme ça, mais je sais que si je ne passe pas par là, je ne vais pas y arriver. Et j'en ai marre de battre des jambes, j'en ai vraiment plus cassé. Donc voilà, après d'autres questions un peu débiles sur les idées de suicide, mais dans tous les cas qui rappellent qu'effectivement qu'un jour de 22 mars 95, une balle avait traversé la tête de monsieur Massia, il s'appelait Ramsey, et quand il est tombé et que j'ai vu que les flics étaient derrière nous, s'il n'y avait pas eu des mecs avec moi qui me répétaient « Tof, tof, il faut qu'on y aille », moi je serais resté, j'attendais les flics, je me sentais pas les épaules pour assumer ça. À la seconde où j'ai tué, je voulais qu'ils arrivent, je voulais régler l'affaire sur place. Il parle bien de suicide by cops, mais effectivement ses copains l'ont ramené, mais ça sera là que sa vie aura basculé. Dans tous les cas, il a pris tant de temps en 99, il est libérable en 52, et il finit un peu en racoutant, parce que voilà, c'est des histoires qu'on n'entend pas. Une journée type de Christophe Kider, et ben, en dehors du procès, ça consiste à se lever le matin, à faire son ménage, plier ses draps, et la porte qui s'ouvre vite, gicler à l'extérieur, le peu qu'on m'offre, le sport, la promenade, l'utiliser, l'exploiter à fond. Puis lecture, mots croisés, tout ce qui d'un point de vue intellectuel peut me maintenir à un certain niveau, du moins ne pas régresser. Et jamais se laisser aller, garder sa bonne humeur, me rappeler que j'ai été qui j'ai été pour pouvoir le rester le temps pendant lequel je vais devoir vivre dans cet endroit particulier. Donc voilà, normalement, il a clairement dit au procès, au directeur de la prison qui était présent, puisque cette même prison était partie civile, que dans deux ans, il déposerait sa demande de conditionnel et d'aménagement de peine, et que là, la décision serait dans la main de la pénitentiaire. Donc la phrase complète, c'est « Je détruirai ce qu'il y a de meilleur en moi, je ressemblerai à l'idée que vous vous faites de moi et je serai un Thermopyle. » Thermopyle, de rappeler que c'était ces guerriers qui ont fait face à l'armée perse à l'époque des Spartiates. Je pourrais en parler encore pendant des heures, mais j'ai...
300.
Et ils étaient 7000 en réalité, mais bon, dans tous les cas, après, c'était impossible de pas parler de évasion sans parler des gens qui viennent chercher, et encore une fois, là, Kider l'avait rappelé, des femmes qui viennent souvent chercher quelqu'un à l'intérieur, mais...
Et on connaît pas le nom de ces femmes qui resteront peut-être dans l'anonymat du grand banditisme.
Justement,
des oubliées
tout le temps, si c'est des femmes, pas souvent, et bien, il y a Nadia... Et la copine de Baeb, je dois avoir son prénom. Mais c'est vrai, c'est une Nadine de plus qui disparaîtra. Elles sont en général, effectivement, comme je le disais, oubliées. Dans tous les cas, elles prennent des peines longues ou ils prennent des peines longues. Je pense à Karine Kalki, des fois encore plus longue que les personnes qu'ils sont venus chercher. Souvent, effectivement, oubliées. Et ce n'est pas complètement un hasard, car si l'évadé, oui, tout le monde comprend pourquoi il fuit enfermé qu'il est. Il sait bien que n'importe quel otage, n'importe quel prisonnier, il pense à la fuite. Et quand c'est la réussite, eh bien, c'est plus fait qu'admise qu'on en a envie et qu'elle est quand même belle, la belle. Mais celui qui vient chercher, pourquoi le fait-il et pourquoi, comment ce serait justifiable? Effectivement, je penserais aussi à Antonio Ferrara, libérable en 2033, que lui, il avait des copains qui étaient capables de venir le chercher. Aujourd'hui, c'est des choses qui se font rares, mais que ces gens, ils remettent en question vraiment, vraiment l'idée même de la justice. Comment, à un moment, tu pourrais prendre le risque au niveau de ta propre vie d'aller chercher quelqu'un pour le sortir de prison. Donc, dans tous les cas, un grand, grand chapeau, grand, grand chapeau à tous ceux, femmes ou pas, proches ou moins proches, qui viennent chercher ceux qui sont à l'intérieur, pour avoir presque une pensée émue pour quelques talibans qui n'oublient pas d'attaquer assez massivement les prisons pour aller chercher leurs camarades, même si c'est pas nos potes, on peut le comprendre. Et de rajouter juste quelques noms, parce que même on peut oublier, effectivement, donc Antonio Ferrara est libérable en 33, ils lui ont donné 17 ans pour sa tentative d'évasion spectaculaire avec deux copains au lance-roquettes et à la bombinette qui sont venus le chercher par derrière et ils l'ont sorti. Il s'est fait rattraper malheureusement. On pensera aussi donc à Karim Tahir, à Christophe Kider, on en a parlé, à Michel Guélam qui avait accompagné Régis Lescher pour une belle tentative d'évasion avec d'autres compteurs. Michel Guélam, pareil, qui lors d'une évasion avait malheureusement été obligé d'afficher à son compteur un maton au carreau et qui donc du coup l'a porté tout le restant de ses jours, c'est-à-dire une trentaine de transferts en 25 ans, c'est-à-dire à peu près deux fois le tour de la France. On pourra penser aussi, donc je l'ai dit, à Régis Lescher, une petite pensée aussi donc à Beaujour, malgré tout, toute son histoire, donc qui a emmené avec lui Nadine et d'autres femmes après, mais qui avait fait quand même de belles, belles. Et une pensée, celle-là, elle sera toute personnelle, donc à Karim Kalki, qui en 1985 était rentré dans le tribunal de Nantes, armé jusqu'aux dents, pour fournir ce qu'il fallait à son ami Georges Courtois et Thiollet, pour faire une tentative de belle qui fut malheureusement avortée. On pensera à ses grandes maisons centrales, Clairvaux, Fresnes, Moulins, d'où il est très dur de s'évader, et où certains le tentent encore. Je ne sais pas s'il y a autre chose à dire que 20 ans, c'est long. Déjà. Vous êtes bien sur Radio Galère, ND Chaîne.
88.4.
Et la parole est à vous.
20 ans d'une vie d'emmuré vivant, où tous les jours cette même putain de nuit et toutes les nuits ce même putain de jour, avec dans la peau des barreaux, des cachots et dans la chair des fers et des transferts, avec comme peine des chaînes de la haine et comme futur des murs et des murmures, et toujours une porte de trop en plus, et tous les jours un jour de moins en plus, avec hier comme le lendemain et demain comme putain de refrain sans fin, et toujours une porte de trop en plus, et tous les jours un jour de moins en plus, avec hier comme le lendemain et demain comme putain de refrain sans fin.
Un putain de refrain sans fin. Un putain de refrain sans fin.
Les parfums enivrants d'ailleurs, 20 ans sans toucher la chaleur d'une récolte, sans entendre les cris joyeux d'une révolte, avec dans la peau des barreaux et des cachots, et dans la chair des fers et des transferts, avec comme peine des chaînes et de la haine, et comme futur des murs et des murmures, et toujours une porte de trop en plus, et tous les jours un jour de moins en plus, avec hier comme l'éclore demain et demain comme putain de refrain sans fin, et toujours une porte de trop en plus, et tous les jours un jour de moins en plus, avec hier comme l'éclore demain et demain comme putain de refrain. Sans fin, un putain de refrain 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 sans fin. Pense à Antonio Ferrara et à Jean-Gibrahim Tala, à Claire, à son petit frère, ses amis, ses proches, sa mère, aux 60 000 perpètes, d'un calendrier incertain, d'une pendule qui s'arrête, avec demain comme putain de refrain. Se réveiller à tout l'écho, dans ta journée d'hier, là commencer le bout en bout, pendant une vie entière, il faudrait être fou, pour ne pas être en colère, et pourtant cette colère, elle va te rendre au poids. Toujours une porte de trop en plus, et des jours de moins en plus. Le poids d'un calendrier incertain, le silence d'une pendule qui s'éteint. L'absence de courbe humaine, l'évidence de droit fait de peine, rend encore plus belle la belle. Donne du zèle qui donne des ailes, y'a pas de mal à se faire la malle.
Tu vois les deux types sur le quai avec leur flingue? Là, à droite. Ils ont fini leur temps. Et ils ont été libérés. Ils sont devenus chasseurs d'hommes.
Chasseurs d'hommes?
Ouais, toi, tu t'évades et ils te courent au cul.
Pour avoir une prime, je suppose. Les salauds.
Bienvenue à la colonie pénitentiaire de la Guyane française. Je vous mets tout de suite en garde. On ne s'évade pas de Saint-Laurent, ça ne réussit jamais. Une tentative d'évasion ajoute 2 ans de cellule à votre temps de peine. Une deuxième tentative, 50 plus. Pour ceux qui commettraient des infractions plus graves, nous serons sans pitié. Nous les traiterons de cette façon. Accommodez-vous de ce que nous vous offrons et vous verrez que votre sort est encore enviable. Rompez.
7000 hommes vivant ensemble et n'ayant qu'une idée fixe en tête, une seule. La Loire a quitté la Palice. Maintenant, tout est bien fini. On s'en va vers le Maroni, où les requins font la police. On est sans son, on n'est plus rien. La loi nous chasse de la ville. On n'est plus qu'un bateau de chiens qu'on mène crever dans une île. Tes amants t'appellent la belle, tout net, tout court. Le boiteux, l'aveugle et le sourd, en pensant à toi, mon amour, ont des ailes. Mais alors apparaît la belle, la faim, la lèpre, le cachot, les coups de poing des pays chauds. Rien ne sera trop beau pour elle. Pour la liberté, les requins auront notre chair de coquin. Et dans la forêt solennelle, où la mort sonne à chaque pas, même lorsque tu ne viens pas, c'est toi qu'on adore, la belle.
La règle ici, c'est le silence absolu. Cette maison est une maison de châtiment pour des hommes déjà condamnés au bagne. On n'essaye pas ici de vous corriger. Nous savons que c'est inutile. Mais on essaye de vous mater. Les durs, on les casse. Physiquement et moralement, on leur vide le cerveau. D'ici, on ne s'évade pas. Chasse toute idée d'espoir. Et masturbe-toi le moins possible, c'est de la fatigue pour rien. C'est tout, allez, emmenez-le.
Empêcher un détenu de s'évader est le corollaire essentiel de la mission de garde confiée au service public pénitentiaire.
Alerte jaune! Alerte jaune! Un de nos prisonniers va bientôt quitter la zone nord du village. C'est le numéro 6. Je répète, le numéro 6.
Dès lors que le détenu commence à entreprendre le franchissement du dernier obstacle le séparant de l'extérieur, l'agent doit tirer sur le détenu afin d'interrompre la tentative d'évasion sur le point d'aboutir. Il s'agit pour cet agent d'une obligation découlant de sa mission. Dès lors que le détenu commence à entreprendre le franchissement du dernier obstacle le séparant de l'extérieur, l'agent doit tirer sur le détenu afin d'interrompre la tentative d'évasion sur le point d'aboutir. Il s'agit pour cet agent d'une obligation découlant de sa mission.
Nous avons évadé. C'est ça comme dans le film américain.
On est sorti de prison, ouais, mais on n'est pas sorti de l'auberge.
Le 12 juin au matin, les surveillants découvrent trois têtes de mannequins émergeant des couvertures. Les couchettes sont celles de trois durs, Frank Lee Morris et deux frères, John William Anglin et Clarence Anglin. Depuis des semaines, la nuit, ils raclent les briques et le plâtre d'un des murs de leur cellule. Ils se concentrent sur celui du conduit de ventilation, agrandissant les trous jusqu'à ce qu'ils puissent se glisser dedans. Ils utilisent des cuillères volées à la cantine et cachent habilement leur travail après chaque séance. Une fois les trous achevés, ils doivent faire semblant d'être toujours en cellule pour donner le change aux surveillants de nuit. Avec du plâtre à mouler, une trousse de maquillage de femme et des cheveux récupérés chez le barbier, ils fabriquent des têtes de mannequins qu'ils placent sous les couvertures. À l'heure dite, ils se glissent dans les trous et se faufilent dans le conduit d'aération qui passe derrière les murs. Ils se hissent à travers une lucarne et se retrouvent sur le toit. De là, ils sautent au bas d'un mur non gardé, longent le local électrique et courent jusqu'à la mer. Ils ont apporté des scieries en caoutchouc dont ils font des radeaux de fortune pour traverser la baie. Dès la découverte de l'évasion, les gardiens fouillent la baie. On dit qu'ils auraient trouvé des traces des fuyards sur l'île voisine des Anges. Mais le fait est passé sous silence. Officiellement, les évadés se sont noyés, emportés comme tant d'autres, par les courants mortels. Ce qui leur est vraiment arrivé demeure un mystère. L'ingéniosité de l'évasion, ajoutée à l'éventualité de sa réussite, suffit à entamer l'invincibilité du rocher.
Je me suis promené pendant des mois avec un bout de babybel dans la main. Et l'objectif, c'était de prendre l'empreinte d'une clé, la clé de la cellule, et d'une autre clé, la clé de la promenade.
Parce que tu les as jamais eues dans tes mains, la clé.
Si.
Comment tu les as dans ta main ?
J'aurais pas été étonné à ce moment-là, c'est vrai, d'ouvrir un dictionnaire et trouver prison, endroit d'où il faut s'évader, quoi. Je fonctionnais vraiment comme ça.
On ne peut pas rêver aux exploits de Zorro et d'Arsène Lupin et ne pas d'abord être impressionné par l'évasion spectaculaire qui a eu lieu à la prison de la Santé ce matin.
Les opérations avaient été préparées dans le plus pur style des superproductions à l'américaine.
Je fonce, j'escalade. Il y a mon pote qui me passe la main. Je prends la main, je m'assois sur le patin. Go.
Michel Beaujour est libre. Nadine, sa femme, pilotait l'Alouette 2.
Trois fois évadé, trois fois repris, Michel Beaujour a encore fait la belle hier soir en s'évadant du palais de justice de Chalon-sur-Marne. Pendant plus d'une heure, avant de prendre la fuite, il avait séquestré le juge d'instruction. Michel Beaujour avait été condamné pour vol à 15 ans de prison.
Et là, j'ai su que, quoi qu'il vienne, je m'évaderai encore.
Tout ça.
La justice, toutes ces choses-là, pour moi, ça n'existait pas, quoi. C'était une vaste fumisterie, quoi, cette histoire de justice. Il y a les gens qui commandent la société et il y a les pauvres gens en dessous. Moi, je faisais partie des pauvres gens. C'est-à-dire les gens qui n'avaient aucun pouvoir, rien, etc. Et j'étais qu'un fils de rien.
La prison.
C'est ça la question.
Mesdames, messieurs, bonsoir. Et oui, Jacques Mesrine s'est évadé, même si ici on n'aime pas trop les formules et le sensationnel, on est bien obligé de dire que l'ennemi public numéro un est depuis ce matin en liberté. En liberté. Michel Beaujour court toujours. Michel Beaujour s'est échappé hier matin de la prison de la Santé. La belle, la plus spectaculaire. La belle, par le chemin des airs, l'évasion en hélicoptère. C'est sa propre femme, on en est sûr maintenant, qui pilotait l'hélicoptère. Mais pour l'instant, Beaujour et sa femme sont introuvables.
Bonsoir, du cinéma à la santé, avec l'évasion spectaculaire d'un détenu qui purgeait une peine de 18 ans de réclusion criminelle. Du cinéma parce que tout y était, l'hélicoptère, le toit de la prison et même une femme qui semblait être au cœur de l'opération.
La belle, la plus spectaculaire, la belle par le chemin des airs, l'évasion en hélicoptère.
Une évasion menée de manière quasi militaire, 10 hommes très fortement armés ont fait sauter les portes de la prison de Fresnes la nuit dernière pour faire sortir Antonio Ferrara. Un scénario mené à la minute près, les deux gardiens qui se trouvaient dans les miradors n'ont rien pu faire.
Une des explosions qui a forcé l'enceinte de la prison de Fresnes cette nuit. Mêlée au crépitement des armes de guerre, monte la clameur des prisonniers réveillés par l'assaut. Une action de guerre avec mitraillage des miradors et charges explosives pour défoncer la porte principale. Pour défoncer la porte principale.
Christophe Kider et Omar El Hadj se sont évadés de la prison de Moulin-Isère hier, peu avant 16h30. Le premier est condamné à perpétuité, le deuxième libérable en 2020. Au parloir, parmi les détenus qui rencontrent leur famille, les deux hommes sortent une arme à feu. Ils prennent deux gardiens en otage. Grâce à de l'explosif dissimulé sur eux, probablement du C4, ils font ensuite sauter les portes du parloir.
Ils voulaient certainement se faire tuer. Voilà, plutôt que retourner en prison. Donc il faut s'interroger pourquoi un homme préfère-t-il mourir à l'extérieur, encore une fois, nous, plutôt que dans le tombeau ou le cercueil qu'on lui a préparé.
Quoi qu'il arrive, je voulais pas mourir dans ce chiotte qu'est Fren.
Le 4 mai, ça veut dire samedi qui arrive, il y a un événement qui est organisé par un collectif informel anticarcéral qui aura lieu à Saint-Étienne, qui s'appelle Du son contre la prison et qui a pour but d'être relié par les ondes radio un peu partout en France et donc qui a pour but d'être entendu par les gens enfermés, les femmes et les hommes enfermés. Et ça sera à partir de 21h sur les ondes radio et du coup ça sera retransmis sur Radio Galère 88.4 et ainsi que sur le site internet de Radio Galère. Je pense qu'il sera écoutable ce concert et c'est un concert en direct du son contre la prison.
Donc c'est le samedi 4 mai et ça s'écoute juste après le Parloir Libre 19h-21h pendant l'émission de Sam Sam. Donc voilà, et il y aura des groupes de musique. Et ce sera du rap et il y aura aussi sûrement des interventions où ça parle de prison. Voilà.
Et dans le même temps, à Bagnolet, pareil, les rencontres sans frontières, un peu toujours autour des endroits où on enferme des gens, des réflexions, des rencontres pour voir comment lutter contre la machine à expulser, les centres de rétention, les prisons, quelles qu'elles soient. Et c'est à Bagnonet, c'est le 4 aussi.
S'évader n'est pas aller d'une prison à une autre, mais le chemin qu'il y a entre les deux. Ma famille, mon école, ma maison, mon travail, mon bar, mon quartier, ma ville, mon pays, ma culture, ma morale, mes certitudes et mes habitudes, mes amis et mes ennemis, tant de tentations d'évasion. Une évasion vitale, une échappée indispensable, cavaler pour se savoir vivant, pour se connaître et connaître, s'envoler pour voir d'en haut le dedans de l'en dehors. Alors quand il ne reste plus que quatre murs pour s'entourer, il faut en casser un pour ne pas disparaître. Quand on ne voit dans l'école que les grilles et les surveillants, il ne reste pour apprendre encore que l'école buissonnière. Quand on ne vit en famille que punition et interdiction, il ne reste pour grandir que la fuite ou la fugue. Quand il n'y a dans un travail que de l'usure et de la misère, il ne reste pour se construire que de ne plus aller bosser. Quand dans l'amour s'installe le devoir et la morale, il ne reste pour aimer encore que de partir. S'évader, s'évader, mais ils prostituent tous nos mots pour mieux nous vendre leurs mots et leurs remèdes. Tu veux l'évasion? Alors regarde la télévision, prends des vacances ou tes médicaments, va au ciné ou au musée, fais du foot et des enfants, va voir une bière, un concert, danse et redanse en transe. Va à la messe et prie, joue au loto et prie encore. Certains parlent même de s'évader par le travail, et d'autres encore le font par le suicide. Alors que s'évader n'est pas aller d'une prison à une autre, mais le chemin qu'il y a entre les deux. S'évader, c'est partir sur des terrains inconnus,
prendre des directions inconnues, toucher l'inconnu. Ça devrait toujours faire envie, et pourtant ça fait peur, l'inconnu. Alors le bel inconnu, la belle inconnue, au moins pour lui ou pour elle, soyons évadables. Casser son réveil, ne plus faire pareil, déserter les cours, changer de parcours, jeter sa télé, refuser d'aller trimer, et partir loin, habiter à plein, pour revenir vers les nôtres, vivre pour les autres. Et enfin dépasser l'imposé, et s'opposer à l'indépassable. Se battre et combattre une prison.
La prison,
les prisons, pour qu'enfin les murs de ce monde s'écroulent.
Voili voilou, end des chaînes, c'est fini pour ce soir. On se retrouve lundi prochain, 20h. Et on rappelle les rendez-vous, 20h samedi, Parloir Libre, 21h, retransmission du concert du son contre les prisons.
Ouais, 19h par l'heure libre.
19h.
Bye.